Vous écoutez, on lit pour vous.
Le pessimisme des jeunes n'est pas banal. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 25 septembre 2024 dans La Presse. On ne peut pas dire que les jeunes vont très bien. De sondage en sondage, les chiffres témoignent d'une déprime certaine concernant leur avenir financier et d'une santé mentale sans cesse plus fragile. Pour vous donner une idée de leur niveau d'accablement, la vaste majorité des jeunes Canadiens, 72 % estiment que les générations précédentes ont eu de meilleures chances de réussir financièrement. Au moment où les réseaux sociaux foisonnent de messages du genre « Vous n'avez besoin que d'une bonne idée et d'une connexion Internet pour devenir millionnaire rapido presto », ce pessimisme n'est pas anodin. Il envoie un message fort. Mince consolation, les Québécois regardent l'avenir avec plus d'espoir, révèle le coût de sonde annuel de la jeunesse réalisé par Léger en septembre 2024. De fait, au Québec, 59 % des 18-44 ans croient que leurs parents et leurs grands-parents étaient dans une meilleure posture qu'eux pour réussir financièrement. L'expression peut vouloir dire bien des choses, mais elle suppose forcément une dose de confiance qui semble s'étioler au fil des ans. À l'évidence, l'inflation des trois dernières années et la hausse spectaculaire du prix des maisons et des taux d'intérêt pèsent sur le moral et assombrissent les perspectives. On voit aussi un effet concret dans les finances personnelles. En 2022, 44 % des jeunes sondés disaient vivre de paye en paye, ce qui est très loin d'être optimal. En 2024, la proportion a bondi à 49 %, même si le taux d'inflation s'est stabilisé. Cela explique peut-être que le trio mariage, maison, enfant fasse rêver moins d'un Z sur deux parmi ceux qui ne sont pas encore mariés, propriétaires et parents. Les plus vieux de cette génération ont aujourd'hui 28 ans. Ce n'est pas la première fois que le lien entre la parentalité et les finances personnelles est évoqué dans une étude. Desjardins affirmait l'an dernier que des jeunes retardent leur projet de fonder une famille et que des femmes décident d'avoir moins d'enfants pour des raisons financières. Comment a-t-on pu en arriver là, dans un pays riche comme le Canada? Ce n'est pas à faute de discipline financière, si l'on se fie au sondage Léger. Car près de 90 % des jeunes surveillent leurs dépenses et 18 % suivent leur budget à la lettre. On est loin de pouvoir dire qu'il s'agit de générations frivoles qui dépensent sans compter. L'un des résultats les plus énigmatiques du sondage concerne les politiques DEI, diversité, équité, inclusion, élaborées par les entreprises. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, 40 % des jeunes les jugent inutiles dans le choix d'un employeur. C'est sans compter que 21 % préfèrent ne pas se prononcer sur la question, ne sachant pas de quoi il s'agit. J'avais l'impression que les employeurs se donnaient bien du mal pour élaborer ces politiques, précisément pour le bonheur, le recrutement et la rétention des travailleurs des générations Y et Z. Pourtant, seulement 15 % d'entre eux les jugent essentiels. Ici, encore une fois, l'écart entre le Québec et le reste du pays est significatif, puisque 31 % des Québécois n'ont jamais entendu parler du concept de DEI, ce qui se compare à 18 % ailleurs au Canada. c'est à se demander si les entreprises mettent leurs ressources et leurs efforts à la bonne place. Mais peut-être faut-il au contraire y voir quelque chose de positif. Et si la diversité, l'équité et l'inclusion allaient tellement de soi pour les jeunes qu'ils ne voient pas la nécessité de coucher ces concepts par écrit dans une politique? Une chose est claire, les entreprises ne peuvent pas ignorer les problèmes de santé mentale qui affligent les plus jeunes travailleurs, avec tout ce que ça implique en matière d'absentéisme et de coûts de santé. Les statistiques sont presque difficiles à croire. Les trois quarts des Y et des Z, 75 % déclarent avoir déjà vécu des moments d'anxiété. En 2020, la proportion était de 47 %. Une telle hausse de près de 30 points ne peut nous laisser indifférents. Même trajectoire inquiétante au sujet de la dépression. Près de la moitié des jeunes, 48 % ont vécu un épisode de dépression. Il y a 4 ans, la proportion était de 38 % Au cours de l'été 2024, j'ai écrit une chronique sur les générations fragiles et la menace que cela posait sur notre avenir collectif, selon une professeure d'Université de Toronto. Je partageais ces craintes et ces nouvelles données, collectées par Léger, me confortent davantage, hélas. Les défis de notre société sont de plus en plus complexes et notre jeunesse semble moins en mesure de surmonter ces difficultés pour prendre des décisions et trouver des solutions. Nous aurons besoin qu'ils soient capables de rester calmes et concentrés, de négocier tous les changements qui sont prévus pour les 20 prochaines années, avait écrit la professeure dans le Globe and Mail en évoquant les changements climatiques, les possibles pandémies, les mouvements migratoires et les inégalités de revenus croissantes. Si le portrait des 18-44 ans vous inquiète ou vous déprime un peu, attendez de voir les deux chiffres qui s'en viennent. Dans son sondage, Léger a posé des questions en lien avec l'équité homme-femme au sein de la société. C'est ainsi qu'on apprend que 21 % des jeunes hommes jugent que les femmes devraient aspirer à être femmes au foyer. Et pas moins de 15 % des répondantes sont d'accord avec eux. De quoi ébranler les générations qui se sont battues pour que les femmes puissent prendre leur place sur le marché du travail. C'était « Le pessimisme des jeunes n'est pas banal ». Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 25 septembre 2024 dans La Presse.
Le Jardin botanique de Montréal se refera une beauté. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 10 octobre 2024 dans Le Devoir. Après le planétarium, l'insectarium et le biodôme, c'est au tour du Jardin botanique d'avoir droit à une cure de jouvence. L'institution presque centenaire créée par le frère Marie-Victorin et l'horticulteur Henry Teucher fera l'objet d'importants travaux afin de restaurer ses infrastructures et de rendre les jardins plus résilients. Au coût de 450 millions de dollars, ce chantier majeur, qui prévoit notamment la restauration des serres, s'échelonnera sur une quinzaine d'années. En janvier 2023, un carreau de verre s'est détaché du plafond d'une des serres. Personne n'a été blessé, mais la direction a décidé de fermer les serres afin de poser un grillage visant à protéger les travailleurs et les visiteurs. 8 mois plus tard, les serres sont toujours fermées au public et les travaux se poursuivent. Les lieux devraient rouvrir au début de 2025 en attendant le chantier majeur qui se profile. des équipements vétustes. Les équipements du jardin botanique prennent de l'âge. L'institution fondée en 1931 a bénéficié de quelques rénovations au fil des décennies, mais le temps est venu d'entreprendre des travaux d'envergure. Au cours des 10 dernières années, Espace pour la vie, qui regroupe 5 musées, a massivement investi dans 3 d'entre eux. Julie Jaudoin, directrice d'Espace pour la vie, estime que cette stratégie a fait ses preuves. Ça a été très payant. On a augmenté de près de 50% l'achalandage d'Espace pour la vie depuis 10 ans. Et maintenant, on a envie de prendre soin du jardin, explique-t-elle. Le bâtiment Marie-Victorin de style Art déco fait l'objet de travaux de rénovation depuis 2 ans. Mais d'autres éléments du jardin botanique, qui couvre 75 hectares, ont aussi besoin d'amour. La vision d'avenir dont a pris connaissance Le Devoir prévoit, dans une première phase, le réaménagement des jardins ouest, qui comprennent la collection de vivaces et qui longent le boulevard Pie-Neuf. Cet espace est resté sensiblement inchangé depuis la création du jardin botanique, il y a près de 100 ans. À compter du printemps 2026, la direction entreprendra des travaux pour rendre ces jardins, tout comme l'ensemble du parc, accessibles universellement en éliminant les seuils et en adaptant les escaliers. Mais on veut garder l'esprit de l'architecte paysagiste Henry Tusher qui les a conçus, précise la directrice du jardin botanique, José Belmar, nommée à ce poste en novembre 2023. Les serres d'exposition et celles qui servent à la production ont également besoin d'une sérieuse mise à niveau. Ces bâtiments, dont les plus vieux remontent aux années 1950, permettent la conservation de 22 000 espèces de plantes, dont certaines sont menacées et ont besoin de conditions particulières. La direction souhaite notamment convertir à l'électricité les appareils de chauffage alimentés au mazout, ce qui permettra de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre, souligne-t-on. Ces serres sont vraiment vétustes, autant la fondation que les verres et l'ensemble de la mécanique, explique Mme Belmar. À cet effet, les élus du comité exécutif de la Ville de Montréal ont approuvé, mercredi, un règlement d'emprunt de 150 millions pour les serres, bien qu'on ne connaisse pas encore le coût total du projet. Les études sont en cours, mais les travaux n'iront pas de l'avant avant quelques années, indique Mme Belmar. Le coût est important, reconnaît Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs au comité exécutif de la ville, mais cet investissement est primordial pour Espace pour la vie qui accueille 2,7 millions de visiteurs par année et qui engendre des revenus de 40 millions de dollars annuellement. Je ne pourrais pas croire qu'on perdrait notre jardin parce qu'on laisse aller nos serres. Ça serait une tragédie sans nom. On doit être capable d'assurer la préservation de cette institution qui fait rayonner Montréal depuis près de 100 ans. Le coût de réalisation de la vision d'avenir du jardin botanique est estimé à 450 millions sur 15 ans, financé essentiellement par la Ville de Montréal. En plus de la restauration des bâtiments et des aménagements accessibles universellement pour les visiteurs à mobilité réduite, le projet prévoit également des travaux pour améliorer la gestion des eaux pluviales sur le site, les infrastructures souterraines et l'étanchéité des étangs, ainsi qu'une déminéralisation des sentiers. À l'origine, le jardin botanique avait été conçu pour être visité en auto, avec des voies larges et asphaltées, rappelle José Belmar. Si ce vaste chantier est susceptible de s'échelonner sur plus d'une décennie, la direction entend maintenir l'accessibilité des lieux pour les visiteurs. C'était « Le jardin botanique de Montréal se refera une beauté », un texte de Jeanne Corriveau paru le 10 octobre 2024 dans Le Devoir.
Une soixantaine de loyers modiques vacants en Abitibi-Témiscamingue. Un texte de Jean-Marc Belzile paru le 23 septembre 2024 sur Ici Abitibi-Témiscamingue. Radio-Canada révélait le 11 septembre qu'en pleine crise du logement, plusieurs habitations à loyer modique gérées par l'Office d'habitation du lac Abitibi sont inoccupées, en Abitibi-Ouest. Or, ce n'est pas le seul endroit dans la région à être dans cette situation. Alors que l'attente moyenne pour obtenir une habitation à loyer modique, HLM, est de près d'un an et demi en Abitibi-Témiscamingue, plusieurs logements sont inoccupés, parfois depuis plusieurs mois dans la région. En Abitibi-Témiscamingue, 9 offices d'habitation offrent un total de 1158 logements pour les gens à faible revenu. Le taux d'inoccupation de ces appartements en ce moment est de 5,8%. À titre comparatif, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements, les taux d'inoccupation sont à 0,4% à Val-d'Or, 0,9% à Amos et 0,8% à Rouyn-Noranda. À la Société d'habitation du Québec, on explique que des travaux sont en cours dans de nombreux logements, alors que d'autres sont dans des secteurs plus isolés, avec peu de demandes comme Taschereau, Cadillac, La Reine, Landrienne, Barraute et Palmarol. Dans certains cas, les logements sont libres depuis plus d'un an. Le professeur en travail social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Stéphane Grenier, estime qu'il faudrait possiblement changer la vocation de certains HLM en milieu rural. On parle de logements majoritairement pour des personnes âgées à faible revenu. Donc, ils sont plus durs à louer, car on a moins de cette clientèle-là, parce que la clientèle de personnes âgées tend à se rapprocher des services et des centres urbains, explique-t-il. La plupart des habitations à loyer modique offertes sur le territoire sont pour les personnes âgées de plus de 50 ans. Toutefois, dans certains cas, seules les personnes de 65 ans et plus sont acceptées. Aussi, seuls les offices d'habitation du lac Abitibi, de Rouyn-Noranda, de Val-d'Or et de Sainte-Terre ont une offre pour les personnes seules ou les familles. Une problématique importante, selon Stéphane Grenier. Ce seraient eux qui bénéficieraient le plus d'un logement à prix modique. Ça aurait moins d'impact sur la pauvreté infantile, par exemple, qui permettrait probablement de sortir des jeunes de la pauvreté, ajoute-t-il. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, ce sont 244 des 1158 logements qui sont disponibles pour cette clientèle. Tout le reste est réservé pour les personnes âgées. Ça permettrait aussi, par exemple, à une mère de 2 enfants qui obtient un HLM de poursuivre des études, car son loyer ne l'écrase pas. Elle peut non seulement poursuivre des études, mais subvenir aux besoins de ses enfants en âge scolaire. Éventuellement, cette femme va se retrouver un emploi et va pouvoir se retrouver un logement dans un marché régulier locatif sans que ses enfants aient à en subir des conséquences, ajoute Stéphane Grenier. Nous avons contacté tous les offices d'habitation sur le territoire et la plupart ont refusé notre demande d'entrevue. À l'office d'habitation, le berceau de l'Abitibi, on nous a indiqué que 15 logements HLM destinés aux familles sont en construction à Amos et pourraient être disponibles pour location dès décembre prochain. Selon le directeur général Stéphane Lezic, il s'agit effectivement d'un grand besoin. J'ai une centaine de personnes qui m'ont déjà donné leur nom afin d'obtenir un logement, explique-t-il. Selon lui, dans les milieux urbains, la demande est très forte et il est facile de louer des appartements. Il estime tout de même que le revenu maximum par individu devrait être augmenté afin de permettre à plus de gens de bénéficier de ce type de logement. Une personne seule ne peut gagner plus de 25 000 $ actuellement. L'Office d'habitation de Rouyn-Noranda a fait savoir par courriel que, si les échéanciers sont respectés, 17 des 25 logements vacants pourraient être disponibles d'ici janvier 2025. Il faut tenir compte de l'ampleur des travaux de rénovation que nous apportons au logement. Lorsqu'un locataire quitte son logement après plusieurs années, nous en profitons pour changer les armoires de cuisine, les comptoirs, parfois les revêtements de plancher de tout le logement, la vanité de la salle de bain, le bain et la céramique de la salle de bain. Il y a donc plusieurs entrepreneurs et corps de métier qui sont impliqués et qui influencent les échéanciers, explique la directrice générale Julie Charette. Dans les plus gros offices d'habitation, qui ont plus de 200 unités locatives, ils ont sûrement des employés d'entretien qui sont normalement formés pour faire ces rénovations. Ça ne devrait pas prendre plus que quelques semaines pour faire les rénovations au complet. Ça ne prend pas 3-4 mois à faire ça. Croit pour sa part Stéphane Grenier. On offre 20 $ de l'heure pour un ouvrier qui serait responsable des réparations dans le logement. C'est très difficile d'être compétitif dans le marché actuel avec le secteur minier, explique pour sa part Stéphane Lezic, qui mentionne que plusieurs secteurs ont de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, ce qui augmente les délais. Jusqu'à 2 ans et demi d'attente. Chaque office d'habitation possède une liste d'attente pour les HLM. Le délai d'attente moyen varie entre 4 et 30 mois. C'est en deçà de la moyenne provinciale. Le conseiller municipal de la ville de Val-d'Or, Jean Saint-Jules, qui siège au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Val-d'Or, estime que les logements se remplissent rapidement dès que les travaux sont terminés. Quand un logement se libère, il y a de la peinture à faire, des réparations, et il est attribué et le délai est très court. Alors, 6 logements en attente d'attribution sur 247 pour nous, c'est très bien, explique-t-il. Le cabinet de la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau, nous a transmis une déclaration de la ministre par courriel. Cette situation est malheureuse dans le contexte de la crise telle que nous la connaissons. Cela peut se produire lorsqu'il s'agit d'immeubles qui sont éloignés des services. La SHQ demeure en contact avec l'Office pour trouver des solutions et louer les logements rapidement. Des assouplissements pourraient être possibles et la SHQ travaille en ce sens avec l'OH, précise son cabinet en refusant notre demande d'entrevue. La Société d'habitation du Québec travaille présentement avec les offices d'habitation à intégrer dans les pratiques d'attribution des mesures d'assouplissement afin de favoriser la location des logements vacants, nous précise la SHQ par courriel, sans répondre à notre demande d'entrevue. C'était une 60aine de loyers modiques vacants en Abitibi-Témiscamingue, un texte de Jean-Marc Belzile, paru le 23 septembre 2024 sur Ici Abitibi-Témiscamingue.
Enfant des îles, une chronique d'Hugo Bourque, paru le 27 mai 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick. Je suis un enfant des îles, de la mer et des grands vents, modelé de sable et d'argile, et coiffé de goémons. C'est ce qui jouait cet après-midi-là dans mon Walkman à cassette auto-reverse avec ses écouteurs à cerceau métallique et ses oreilles en mousse-mousse orange. J'écoutais ça en marchant tranquillement sur la plage de la Martinique. Je ne le savais pas encore, mais ce refrain-là allait devenir tranquillement, pas vite, un élément marquant de mon identité madelinienne. C'est la chanson qui m'a connectée pour la première fois avec la fierté d'être qui je suis, de venir d'où je viens. J'ai toujours aimé l'auteur-compositeur et interprète madelinot Didier Turbide. Je me souviens même de la première fois de ma vie que je l'ai vu en spectacle. C'est mes tantes qui m'avaient amené le voir en se disant que j'allais sûrement aimer ça. C'est alors que j'ai découvert un conteur fantastique et un chanteur de chez nous qui nous chantait simplement chez nous. Je suis repartie de là avec la cassette et je l'ai usée à la corde. La vie dans la mer me faisait danser. Le bingo me faisait rire. Moi, je décolle pour Montréal, me faisait rêver. En plus, à l'âge que j'avais, entendre les mots « si tu pousses un pet dans ton canton, ça boucane dans tous les fonds de canneçon » dans une chanson, c'était le rêve. Et que dire de la chanson « Les premiers téléphones » qui raconte le moment où ce moyen de communication débarque sur une île où la palabre occupe une place si importante. Il ne pouvait pas démontrer mieux ça qu'avec le « chose m'a dit que chose y a dit que machine y avait dit ». À partir de là, j'ai pas mal toujours suivi Didier avec ses R parfois cachés dans sa prononciation. Sur son deuxième album, c'est vraiment la chanson « L'enfant des îles » qui a rapidement attiré mon attention. J'avais l'impression d'entendre quelqu'un se vanter, se permettre d'être un peu faro avec ses racines. On avait déjà chanté « Je voudrais être Madelineau » en se mettant dans la peau de quelqu'un d'en dehors, mais là, pour moi, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un crier notre régime à plein poumon. Et même si je n'avais qu'une dizaine d'années, on aurait dit que ça faisait du bien d'entendre ça. Cet après-midi-là, dans mon Walkman à cassette auto-reverse avec ses écouteurs à cerceaux métalliques et ses oreilles en mousse-mousse orange, je l'ai écouté aller-retour sans arrêt. Et Dieu sait que ce n'était pas évident à l'époque d'écouter une seule chanson sur une cassette. Fallait la faire reculer et arrêter le review au bon moment. Puis, plusieurs années plus tard, j'ai travaillé à Arimage, la corporation culturelle des îles. Un jour, entre dans le bureau un grand monsieur, plutôt discret. Comme j'étais concentrée, je n'ai pas trop porté attention. C'est alors que j'ai entendu sa voix et les R qui se cachaient subtilement dans sa prononciation. C'était Didier. On ne le voyait plus beaucoup en spectacle à cette époque-là. Il avait besoin de quelques photocopies et c'est moi qui l'avais aidé avec ça. Pour faire la conversation, je lui avais maladroitement demandé « Pis, me semble que ça fait longtemps qu'on vous a vu en spectacle. » Il m'avait répondu « Ah, tu sais ce que c'est, nul n'est prophète en son pays. » Et ça m'avait fait beaucoup de peine d'entendre ça. Heureusement, depuis quelques années, il a repris les spectacles. Un pays doit savoir garder ses prophètes bien en vue. Ainsi soit-il. Sans le savoir, Didier Turbide, par ses écrits et ses chansons, a été une source d'inspiration pour moi. L'humour et l'émotion peuvent cohabiter. Il suffit de les mélanger avec délicatesse et habileté. Et ça, Didier a toujours su bien le faire. Ses spectacles m'ont fait rire et m'ont ému dans le passé et me restent encore en tête aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui jouait cet après-midi-là dans mon ordinateur pendant que j'écrivais ce texte. « Enfant des îles un jour, enfant des îles toujours. Le soleil brille sur mon île, j'ai apprivoisé le temps. » J'ai fini mon domicile en plume de goéland. On se reparle. C'était « Enfant des îles », une chronique d'Hugo Bourque, parue le 27 mai 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick.